Il n'existe nulle séparation entre les dieux et les hommes. Les uns et les autres se mêlent parfois sans distinction possible. Proverbe de Muad'Dib. Sans cesse, les pensées de Sital, le danseur visage Tleilaxu, le ramenaient à la pitié, une pitié imprégnée de remords et qui s'opposait à la nature meurtrière du complot qu'il essayait de former. La mort ou le malheur de Muad'Dib ne m'apportera que des regrets, songeait-il. Bien sûr, il se devait de dissimuler de telles pensées à ses conjurés. C'était là, cependant, une qualité caractéristique des Tleilaxu. Il s'identifiait à la future victime. Dans un silence maussade, il se tenait à l'écart des autres. Depuis quelque temps, il discutait de l'emploi éventuel d'un poison psychique. Avec véhémence, avec chaleur, mais aussi avec cette politesse aveugle et soumise que les adeptes des grandes écoles adoptaient pour tout ce qui touchait de près à leur dogme.
Alors que vous croyez l'avoir embroché, vous vous apercevez qu'il n'est pas même blessé.
C'était la vieille révérende mère Gaius Hélène Mohayam du Bene Gesserit qui venait de parler ainsi. Elle était l'hôtesse des conjurés sur Wallach IX. Sa silhouette roide, drapée de noir, immobile dans le fauteuil à suspenseur, à gauche de Sital, évoquait celle d'une sorcière. Elle avait rejeté son habit en arrière, et sous une mèche de cheveux argent, son visage était un masque de cuir sombre, où seuls vivaient les yeux, au fond des orbites profondes. Ils conversaient en mirabassa, le langage des émotions subtiles, fait de consonnes élidées et de voyelles mêlées. Edric, le navigateur de la guilde, répondit à la sentence de la révérende mère par un sourire marqué de courtoisie et d'une délicieuse politesse dédaigneuse. Il flottait dans une cuve de gaz orange à quelques pas de Sital, au centre du dôme transparent que le Bene Gesserit avait fait dresser spécialement pour cette entrevue. Le représentant de la guilde spatiale avait une apparence vaguement humanoïde. Sa longue silhouette pouvait tout aussi bien être celle de quelques poissons. Chacun de ses lents mouvements faisait apparaître les nageoires de ses pieds, les membranes de ses mains, tandis qu'une pâle émanation orangée s'élevait des évents ménagés dans la cuve, faisant flotter dans le dôme le parfum du mélange. Étrange poisson en un étrange océan.
Si nous continuons de la sorte, nous paierons notre stupidité de notre mort.
Le quatrième conjuré venait d'intervenir. Épouse de l'ennemi commun, elle n'était en fait admise qu'à titre potentiel dans la conspiration. De plus, se dit Sital, elle était l'épouse mais non la compagne de Muad'Dib. Elle se tenait non loin de la cuve où dérivait Edric. Elle était blonde, grande et belle, revêtue d'une robe de fourrure de baleine bleue. De simples anneaux d'or brillaient à ses oreilles. Il émanait d'elle une certaine grandeur aristocratique, mais Sital pouvait lire dans la tranquillité étudiée de son visage les effets du contrôle Bene Gesserit. Il détourna ses pensées des nuances du langage pour se préoccuper de celles de leur situation. Tout autour du dôme se déployaient des collines ocellées de neige qui reflétaient la clarté bleutée du petit soleil à présent au méridien. Pourquoi ici précisément ? Se demanda Sital. Il était rare que le Bene Gesserit fît quelque chose sans raison. Le dôme, par exemple, un espace plus conventionnel, plus confiné, aurait réveillé la claustrophobie du représentant de la guilde, dont les inhibitions résultaient naturellement de son milieu naturel, l'espace interstellaire. Mais la construction même de ce dôme à son intention équivalait à pointer l'index sur sa faiblesse principale. « Et moi ?» se demanda Sital. Par quoi comptait-il me blesser ?
Vous, Sital, n'avez-vous rien à dire ? Demanda la révérende mère.
Vous tenez à m'attirer dans ce tournoi absurde, dit-il. Très bien. Je pense que nous nous attaquons à un messie potentiel et que nous ne pouvons le faire de front. Si nous en faisons un martyr, nous nous condamnons.
Ils le regardèrent tous.
Selon vous, c'est là l'unique danger ?
Demanda la révérende mère d'une voix sifflante. Il haussa les épaules. Pour cette entrevue, il avait choisi un corps grassouillet, un visage aimable, rond et banal, aux lèvres épaisses. À présent, tandis qu'il examinait les trois autres conjurés, il lui apparaissait que son choix avait été judicieux, sans doute grâce à son instinct. Danseur visage, caméléon humain, il pouvait à son gré transformer son apparence. Celle qu'il assumait actuellement inclinait les autres à lui donner moins d'importance.
« Eh bien, » insista la révérende mère.
« Je goûtais le silence, » dit-il enfin. « Noën valent mieux lorsqu'elle ne quitte point nos bouches. » La révérende mère eut un mouvement de recul et Cital put voir qu'elle le réévaluait. Ils avaient tous subi un entraînement approfondi en prana et en bindu. Ils pouvaient contrôler leurs muscles, leurs nerfs, plus efficacement que la plupart des humains. Mais Cital était un danseur visage. Ses connexions nerveuses et musculaires ne ressemblaient en rien à celles des autres, et il avait en plus la simpatico, un pouvoir mimétique qui lui permettait d'assumer l'apparence d'un autre être en même temps que sa psyché. Lorsqu'il jugea que la révérende mère avait achevé sa réévaluation, il dit « Le poison ». Avec les intonations qui signifiaient que lui seul connaissait encore la secrète signification du mot. Dans sa cuve, le représentant de la guilde réagit immédiatement. Sa voix résonnait dans la phonosphère scintillante qui flottait au-dessus de la princesse Irulan. Nous parlions de poison psychique et non physique. Cital rit. Le rire Mirabassa pouvait venir à bout d'un adversaire et en cet instant, il lui donnait sa pleine puissance. Irulan eut un sourire appréciateur, mais il décela une trace de colère dans le plissement de paupières de la révérende mère. « Assez, » dit-elle. Il se tut aussitôt. Mais il avait capté leur attention. Il émanait d'Edric une sorte de fureur silencieuse. La révérende mère demeurait pleinement vigilante dans sa colère, et Irulan était amusé et intrigué. « Notre ami Edric laisse entendre, » dit Cital, « que deux sorcières Bene Gesserit au fait de toutes les subtilités ignoreraient encore l'usage véritable de la trahison. » Gaius Hélène Mohayam porta son regard sur les froides collines du monde Bene Gesserit. Elle commençait à discerner l'élément important, se dit Cital. Une bonne chose. Quant à Irulan, c'était un autre problème.
« Êtes-vous des nôtres, oui ou non, Cital ?» demanda Edric.
Il avait des yeux de rongeur, minuscules et scintillants. « Il ne s'agit pas de discuter de mon allégeance, » dit Cital. Il regarda la princesse. « Vous vous demandez, princesse, si c'est pour cela que vous avez franchi tous ces parsecs et couru tant de risques ?» Elle inclina la tête. Pour échanger des banalités avec un poisson humanoïde ou vous quereller avec un gros danseur visage Tleilaxu ?
Elle s'éloigna de la cuve d'Edric et du parfum dense du mélange en pinçant les narines. L'homme de la guilde choisit cet instant précis pour glisser une nouvelle pilule de drogue dans sa bouche. Il mangeait et fumait l'épice et sans doute la buvait également. Cela se concevait, songea Cital. Le mélange augmentait les dons de préscience des navigateurs, leur permettant de guider les nefs de la guilde aux vitesses ultra-luminiques, de choisir la ligne d'avenir qui offrait le moindre péril. À présent, Edric devinait l'existence d'une autre sorte de danger, un danger qui était encore au-delà de sa préscience.
« Je pense que j'ai commis une erreur en venant ici, » dit la princesse Irulan.
La révérende mère se tourna vers elle, ouvrit les yeux, puis les referma d'une façon curieusement reptilienne. Invitant par là Irulan à partager son point de vue, Cital regarda ostensiblement la cuve. Assurément, la princesse verrait Edric tel qu'il le voyait, lui, comme une répugnante créature. Ce crâne chauve, ce regard, ses pieds et ses mains monstrueux qui battaient comme des ailes dans le gaz qui formait autour de lui des tourbillons orangés. Elle allait s'interroger sur ses pratiques sexuelles
imaginer à quel point il devait être étrange de copuler avec cet être. Même le générateur de chants qui recréait pour Edric l'apesanteur de l'espace le séparait définitivement de la princesse.
« Princesse, » dit Cital, « par suite de la présence d'Edric parmi nous, la vision prophétique de votre époux ne saurait s'étendre à certains incidents, y compris celui-ci, sans doute. »«
Sans doute, » dit Irulan.
Les yeux toujours clos, la révérende mère acquiesça.
Le phénomène de préscience est mal connu, même des initiés.
Je suis un navigateur de la guilde et je dispose du pouvoir, dit Edric.
La révérende mère rouvrit les yeux. Elle regarda le danseur visage avec une intensité typiquement Bene Gesserit. Elle spéculait, réfléchissait aux détails.
Non, révérende mère, dit Cital dans un murmure. Je ne suis pas aussi simple que je le parais.
Nous ne comprenons pas ce pouvoir de seconde vue, dit Irulan. Un point reste acquis. Edric déclare que mon époux ne peut voir, entendre ou prédire les événements qui dépendent de la sphère d'influence des navigateurs. Mais jusqu'où s'étend cette sphère?
Il est dans cet univers, dit Edric, des êtres et des choses que je ne connais que par leurs effets. Sa bouche de poisson n'était plus qu'une étroite ligne. Je sais qu'ils ont été ici, là, quelque part. De même que les créatures aquatiques agitent l'eau et y laissent des remous, les prescients agitent le temps. Je sais où votre époux a été, mais jamais je ne l'ai vu. Ni lui, ni ceux qui partagent ses intérêts et qui sont loyaux. Tel est le refuge qu'offre un adepte au sien.
Irulan n'est pas des vôtres, dit Cital.
Et il glissa un regard de biais en direction de la princesse.
Nous savons tous pourquoi la conspiration ne peut se poursuivre qu'en ma présence, dit Edric.
Apparemment, dit Irulan, vous avez certaines fonctions.
Et le ton qu'elle employa était celui qui convenait pour décrire une machine.
Très bien, songea Cital.
Elle le voit désormais tel qu'il est.
L'avenir doit être façonné, dit-il.
Gardez en vous cette pensée, princesse.
Elle lui fit face.
Ceux qui partagent les intérêts de Paul, ceux qui lui sont loyaux, certains légionnaires Fremen, portent sa cape. Pour eux, il a prophétisé et j'ai entendu les cris d'adoration qu'ils lançaient à leur Mahdi, leur Muad'Dib.
Elle vient de comprendre, se dit Cital, qu'elle est sur le point d'être jugée, qu'elle peut être sauvée ou détruite.
Elle voit maintenant le piège que nous lui avons tendu.